Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être de retour ici après 2 ans et surtout d'être là pour vous parler d'une thématique qui me tient à cœur et qui vous tient à cœur aussi, puisque c'est celle de ces journées, qui est celle des rapports entre la science et l'art. Alors, je suis un petit peu gêné par le sous-titre qui a été donné dans le programme, où il est question de l'alliage entre la science et l'art. Je suis doublement gêné, d'une part parce que Alliage est effectivement le titre de la revue dont il vient d'être question, mais parce que ce titre appliqué à la science et à l'art pourrait semer des malentendus que je vais m'efforcer d'éclairer, comme s'il pouvait y avoir une sorte de mélange, de jonction entre l'art et la science. En fait, je n'en crois rien. Et ce que je vais m'efforcer de vous montrer, c'est que la science et l'art, c'est extrêmement différent. Et c'est ça qui fait leur intérêt et qui fait l'intérêt de leur rencontre. Nous ne nous intéressons qu'à rencontrer des gens suffisamment différents de nous. Si vous rencontrez quelqu'un qui est totalement identique, qui a exactement les mêmes opinions que vous, vous n'avez rien à discuter, ce n'est pas intéressant. Donc il me semble que l'intérêt des rapports entre la science et l'art, c'est essentiellement le fait que la science n'est pas l'art. Ce qui permet, comme vous allez le voir, ce qui leur permet, et le mot vient d'être prononcé, ce qui leur permet de se croiser. C'est ça qui me paraît intéressant. Alors d'abord, quelques précisions sur ce titre qui est vraiment trop général. D'une part, la science dont je vais parler, il s'agit plus précisément des sciences dites dures, que d'aucuns aimeraient appeler les sciences asociales et inhumaines, ce qui me semblerait pas forcément une mauvaise chose. Plus précisément d'ailleurs encore la physique, qui est ma science. Et l'art dont il est question va être essentiellement les arts plastiques. Peinture, sculpture, performance, etc. Donc je laisserai complètement de côté tout ce qu'on pourrait dire, et Dieu sait qu'il y aurait à en dire, sur la littérature, la musique, le cinéma. La question vraiment des arts plastiques qui me concernent aujourd'hui. Et je vais me placer délibérément, quasiment d'emblée, aujourd'hui. Je ne vais pas faire une longue rétrospective en vous représentant les rapports compliqués au cours de l'histoire, par exemple à la Renaissance, entre l'avancement des mathématiques dans la géométrie et l'avancement des arts plastiques via l'invention de la perspective, choses qui sont d'une importance absolument capitale dans l'histoire de notre culture. Mais je vais faire l'impasse là-dessus, c'est bien que c'est relativement connu, il y a beaucoup de documentation, et je vais me placer véritablement dans le moment présent. Alors, le moment présent, c'est un moment où effectivement cette question du rapport entre art et science est extrêmement présente. On ne compte plus les initiatives, conférences, colloques, livres, etc., émissions de télévision sur ce thème art et science. Je vais vous l'illustrer par quelques exemples récents. Par exemple, Art of Science. C'est un concours américain de photographie à base scientifique. Et donc l'idée, c'est de demander aux chercheurs dans leur laboratoire d'envoyer leurs plus belles photographies de façon à réunir une sorte d'anthologie de ce qu'ils appellent Art of Science. Alors chaque année, ce concours a lieu, il donne lieu à des primes, vous avez des catalogues, et vous voyez des choses de ce genre-là. Ces quatre images sont des images qui, à l'origine, sont des images scientifiques. La première, on peut voir à peu près ce dont il s'agit, c'est manifestement de la dynamique des fluides avec des tourbillons qui s'élèvent. La deuxième ne m'en dépasse pas, je ne sais pas ce que c'est. La troisième non plus, la quatrième non plus. Ce qui est frappant précisément, c'est que le contenu proprement scientifique de ces images passe totalement au second plan. Alors oui, bien sûr, quand vous avez la version imprimée dans le catalogue, on vous dit cette photo a été prise dans le laboratoire de machin. Donc vous avez une vague idée pour savoir si c'est de la physique ou de la biologie. Mais son contenu scientifique, ce qu'elle apporte, ce qu'elle montre réellement sur les phénomènes naturels est totalement occulté au profit d'une image qui n'est présentée que pour sa valeur esthétique ou prétendument esthétique. Alors évidemment, c'est plein de très belles couleurs. Est-ce de l'art pour autant ? Vous me permettrez d'en douter, surtout si l'on prend d'autres exemples. Alors, un autre exemple, c'est les très nombreuses images que vous pouvez voir aujourd'hui tirées de nos télescopes extrêmement puissants ou des sondes spatiales qui parcourent le cosmos, qui nous renvoient des images effectivement très fabuleuses du monde cosmique, des choses que ma génération, quand nous étions étudiants, n'a jamais vues avec un tel luxe de détails, de couleurs, de précisions. Alors, vous en voyez absolument partout, pas seulement dans les revues de vulgarisation scientifique, mais ça sert aussi à faire de la publicité, vous en retrouvez à la télévision, et on vous montre des choses de ce genre-là, superbe galaxie, une nébuleuse gazeuse, une autre nébuleuse gazeuse, etc. Ce qui est frappant aussi, c'est que dans la plupart de ces présentations, première remarque, on ne vous donne pas l'échelle. Et si on ne vous donne pas l'échelle, vous ne pouvez pas savoir ce dont il s'agit. Ici, il s'agit d'une galaxie, c'est-à-dire d'un objet qui a une dimension de l'ordre de quelques 100 000, 200 000 années-lumière, alors que les autres objets qui sont là sont beaucoup plus petits, sont des dimensions de quelques années-lumière, sont des nébuleuses gazeuses. Mais si on ne vous donne pas un minimum d'explication, vous ne savez pas ce dont il s'agit. Et là encore, la science disparaît complètement au profit du spectacle qui vous est offert. Spectacle dont il faut dire d'ailleurs qu'il est en fausse couleur. D'abord, aucun œil humain ne verra jamais ça. Si vous mettez votre œil au foyer d'un télescope, vous voyez des images sans couleur. Pourquoi ? Parce que la lumière est très faible et vous ne distinguez pas les couleurs avec un éclairement faible. La nuit, vous ne voyez plus les couleurs. Et donc, il faut de la photographie à très longue pause qui vous permet d'avoir ces détails absolument extraordinaires. Et en plus, ensuite, un traitement informatique des couleurs qui va renforcer le contraste. Donc, ces couleurs sont des couleurs qui ne correspondent pas à la réalité effective des objets qui sont montrés et qui sont souvent manipulés par les scientifiques ou plus précisément d'ailleurs par les agences de communication des institutions, de la NASA, de l'ESO, etc., pour vous en mettre plein la vue. Les scientifiques eux-mêmes travaillent avec des images dans lesquelles, certes, ils utilisent des fausses couleurs, mais qu'ils choisissent non pas tant pour leur valeur esthétique que pour la façon dont elles peuvent rendre compte de détails précis sur la constitution de tel objet, sur la nature de tel ou tel phénomène. Autre exemple, les fractales qui ont fait couler beaucoup d'encre, c'est un peu moins à la mode aujourd'hui, mais il y a une vingtaine d'années, on voyait des fractales absolument partout. Encore aujourd'hui, vous tapez fractal sur Google, vous avez un déluge absolument incroyable d'images de ce genre-là, qui tout illustre un objet mathématique extrêmement intéressant qui a été mis en avant par Benoît Mandelbrot dans les années 70-80, mais qui en vérité avait été inventé, sauf son nom, bien avant par des mathématiciens français dans les années 20-30, Julia et Fatou, et qui a pris ensuite une grande extension, beaucoup grâce d'une part à la possibilité de calculer des images de ce genre-là avec des moyens informatiques précis et de les traiter, là encore, en fausse couleur. Alors, celle-ci, c'est ce qu'on connaît sous le nom de l'ensemble de Mandelbrot, ça a effectivement un contenu mathématique extrêmement profond, que je ne détaillerai évidemment pas ici. Les autres sont de purs jeux de formes qui n'ont aucune valeur strictement scientifique, sinon qu'elles permettent aux gens qui les fabriquent de jouer avec ces phénomènes de réitération perpétuelle qui caractérisent les fractales. Et la chose va jusqu'à un exemple que je trouve très révélateur du fait que si la communication l'emporte sur l'information, c'est un bijou fractal. Tenez-vous bien, voici un superbe collier en améthyste, diamant et que sais-je encore, qui est présenté par la maison qu'il a mis au point de la façon suivante. passionné par l'univers mathématique des fractales, Mark Newson, c'est un designer américain, s'est lancé pour défi d'imaginer pour la maison Boucheron un collier reprenant le mouvement méthodique et géométrique des fractales, etc. etc. 1500 heures de travail, 2000 saphirs et diamants, un collier étourdissant qui se veut aussi léger qu'élégant. Je laisse quiconque apprécier la légèreté et même l'élégance de la chose. La publicité ne donne pas son prix, mais vous pouvez l'imaginer assez aisément. Eh bien, on arrive là à ce que j'appellerais volontiers du techno-kitsch, c'est-à-dire l'exploitation à des fins purement spectaculaires d'images qui ont effectivement une origine technique, mais qui sont totalement éloignées de leur fonction propre et qui n'ont plus pour rôle que de vous éblouir, de vous épater, de vous plaire, et pourquoi pas après tout. Après tout, on a le droit d'avoir du plaisir à regarder certaines images. Simplement, n'imaginons pas pour autant qu'il y a un contenu forcément scientifique derrière. Je donne encore un ou deux petits exemples, parce que cela montre bien l'investissement des institutions scientifiques elles-mêmes. Quand la science rejoint l'art, c'était une exposition de l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, une exposition de panneaux qui, un peu sur le mode que j'avais illustré au début, présentait des images prises dans les laboratoires à des fins qui étaient censées illustrer le caractère profondément culturel de la recherche scientifique. C'est que toutes ces images sont dotées de titres qui n'ont strictement rien à voir avec leur contenu scientifique. Celle-ci s'appelle « Le chanteur de jazz ». Vous pouvez imaginer pourquoi. Oui, on peut voir des bouches ouvertes dans cette affaire-là. Celle-là s'appelle « Trou noir ». N'a rien à voir avec un trou noir astronomique. Ce n'est jamais qu'une cellule biologique, de même que celle-là, etc. Et tous ces titres sont des titres, celle-là s'appelle « Le rose des sables », je crois. Tous ces titres sont des titres totalement métaphoriques qui n'ont plus aucun rapport avec le contenu de l'image. Et en faisant ça, il me semble que l'on ne rend service ni à la science, ni à l'art. On identifie l'art à du pur plaisir visuel, et on gomme le contenu intellectuel de ce qu'est la science. Alors, je vais passer rapidement sur un autre exemple pour ne pas vous embêter. Ceci a été magnifiquement illustré, ce côté, cette espèce de pensif sur la science et l'art, au Musée océanographique de Monaco, qui fêtait en 2010 le centenaire de sa fondation par le prince Albert Ier. Et le prince Albert Ier avait dit « J'ai voulu réunir dans un même éclat les deux forces directrices de la civilisation, l'art et la science. » Et son petit-fils, Albert II, disait « La rencontre entre art et science est source d'émotion et de raison. Elle incite à une réflexion sur l'état du monde et le devenir de l'humanité. » Même pas faux, banalement trivial. Comment dire le contraire de ce qui est une platitude absolue? Ça ne nous apprend guère ni sur l'art, ni sur la science, ni sur leur rapport, encore moins sur l'humanité, dont je ne suis pas sûr que les deux forces directrices soient l'art et la science. En tout cas, de nos jours, j'irai chercher plutôt du côté du capital et de l'armée, par exemple, qui me semble être effectivement aujourd'hui des forces vraiment directrices. Et puis, ça vient même se réfugier par un retour dans le monde scientifique, dans des publicités. Celle-là est tirée de la revue Nature, qui est une des grandes revues scientifiques primaires, où une firme qui vend des protéines fait sa publicité comme si les photographies que l'on pouvait prendre à l'aide des instruments qu'elle vend avaient vocation à être exposées dans un musée ou dans une galerie d'art. Donc là, vous avez un prêté pour un rendu qui montre bien à quel point nous nageons dans la confusion. Alors, je voudrais faire litière au passage d'un mythe qui est sous-jacent a beaucoup de réflexions sur les rapports entre l'art et la science et qui trouve ou prétend trouver sa racine déjà à la Renaissance, c'est le mythe du nombre d'or. Donc je vais essayer de montrer que c'est véritablement un mythe et qu'il ne nous éclaire pas le moins du monde sur les rapports entre art et science. Alors le nombre d'or, c'est un nombre qui a une propriété mathématique importante, qui est bien connue des mathématiciens, et que vous obtenez de la façon suivante, par une construction extrêmement simple. Prenez un rectangle dont le petit côté vaut 1, un mètre, mettons, et vous ne connaissez pas encore le second côté, et vous voulez choisir le second côté de façon que ce rectangle ait la propriété suivante. Supposez que vous traciez un carré, donc ce côté va valoir 1 comme celui-là, et vous voulez que le rectangle restant qui est là ait les mêmes proportions que le grand rectangle de départ. Alors si vous faites ça, vous avez une très jolie structure, parce que vous pouvez continuer, vous découpez un carré ici, vous avez un nouveau rectangle, etc., et vous itérez, et ce nombre d'or, je vais vous passer le calcul, qui est à la portée de n'importe quel élève de terminale ou même probablement de première, le calcul vous donne la valeur de x, c'est 1 demi de 1 plus racine carrée de 5. Le résultat numérique, c'est 1,618. Ce nombre, encore une fois, a des propriétés mathématiques fort intéressantes et fort profondes. Mais il a été exploité, je crois que le mot n'est pas trop fort, de façon à laisser penser qu'il était présent dans toute une série d'œuvres d'art ou d'architecture, d'ailleurs, humaines depuis très longtemps. Depuis les pyramides jusqu'au Parthénon, depuis Léonard de Vinci jusqu'à Seurat, et même, je rajoute, à la guérite du garde de l'Élysée, démonstration qui a été faite par un de mes amis qui a montré que, en prenant les dimensions de la guérite du garde de l'Élysée, c'était assez facile en prenant, je ne sais pas moi, la somme de sa largeur et du côté du toit et en le divisant par sa hauteur, de trouver quelque chose qui était très proche du nombre d'or. Si vous le cherchez, ce n'est pas difficile. Dès que vous avez une construction géométrique, mais absolument quelconque, dans laquelle vous avez au moins 3 ou 4 longueurs différentes, c'est extrêmement facile de trouver une combinaison qui va vous redonner ce nombre. C'est donc un faux ami. Et ce que vous pourrez trouver sur le net qui tend à essayer de vous convaincre qu'il correspond à quelque chose de profond du point de vue artistique, vous verrez des choses de ce genre-là. Voilà le Parthénon, soi-disant divisé à l'aide du nombre d'or. Mais vous voyez que si vous regardez en détail, ce n'est pas extrêmement clair. Pourquoi on met la base ici et pas un peu plus bas, alors qu'il y a manifestement là des marches qui ont disparu? Pourquoi est-ce qu'on est si sûr que le toit, il faut le reconstruire, que là, c'est son maximum? Pourquoi est-ce que ça passe pas par précisément le milieu d'une colonne? Bref, dès que vous regardez ça avec un peu de détail, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal d'arbitraires dans cette construction. Même chose si vous prenez la section d'or, c'est le nom anglais, si vous prenez la Joconde, c'est pas trop difficile de trouver des rectangles qui ont à peu près la bonne proportion, mais vous voyez avec quel arbitraire ils sont tracés. Pourquoi cette ligne-là ne passe pas juste par le décolleté de la dame? On voit bien que on fait ce découpage en fonction de ce qu'on veut trouver. Même chose dans des tableaux de Seurat. Et ça va jusqu'à un extrême que j'ai trouvé récemment. C'est après l'assassinat de Kennedy, c'est l'assassinat de Lee Harvey Oswald par, je ne sais plus comment il s'appelait, Jack Ruby, c'est ça. Eh bien, cette photo montre qu'il y avait un complot là derrière, ce n'était pas encore les Illuminati, mais presque. La preuve, c'est qu'on trouve les proportions du rectangle d'or dans cette photo. Bon, vous voyez, on atteint des sommes extraordinaires. En vérité, si vous regardez de près, le vrai nombre d'or, 1,618, il est en fait compris entre deux nombres beaucoup plus simples, qui sont l'un la fraction 8 cinquième, qui vaut 1,6, et l'autre la fraction 5 tiers, qui vaut 1,66. Je défie quiconque, y compris d'ailleurs des artistes à l'œil exercé, si je leur montre 3 rectangles l'un qui a les proportions 1,6, l'autre 1,618, l'autre 1,66, de faire à l'œil le départage. Il se trouve effectivement que nos préférences esthétiques, si je vous montre des rectangles qui ont toutes sortes de proportions, ont tendance à favoriser quelque chose qui a des proportions de ce genre-là, entre 1,6 et 1,7. Mais qu'il s'agisse du nombre d'or en tant que tel, aucune preuve de cette affaire-là, qui en vérité est une affaire récente. Le nombre d'or dans sa fonction, sa prétendue fonction esthétique, est une invention pure et simple de la fin du XIXe siècle, et en particulier d'un personnage extrêmement bizarre, un Roumain qui s'appelait Matilda Ghica, et qui, en 1880-90, a écrit un grand traité dans lequel, effectivement, il essayait de rassembler toutes ces données qui n'ont, encore une fois, aucune fonction. Alors, ça ne change rien au fait que, je le répète, le nombre d'or a un sens mathématique. Il est lié, comme ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs, au Pentagone, et donc il y a des structures géométriques profondes qui sont dessous. Maintenant, qu'elles orientent nos préférences esthétiques et le travail des artistes, rien n'est moins vrai. En particulier, quand vous regardez l'œuvre de Seurat, un peintre suffisamment récent pour qu'on ait beaucoup de documentation, et qu'on regarde ses dessins préparatoires, on s'aperçoit que ce que Seurat essaye de faire, c'est d'échapper à des proportions trop simples. Il ne veut pas des proportions du genre 1,5, même 2 tiers, 3 quarts, ça ne lui plaît pas trop. Il essaye de faire des choses un peu plus sophistiquées. Et dès que vous essayez de faire des choses un peu plus sophistiquées, vous allez tomber sur des 5 tiers, des 8 cinquièmes, des choses comme ça. Et effectivement, l'étoile de Seurat, on le voit très bien sur ses cartons, il divise en 8 et il va mettre quelque chose à l'aplomb de la 5e graduation. Rien à voir avec le nombre d'or. Donc, il faut être attentif à ce qu'on peut nous raconter là-dessus. De même, à toute une thématique qui s'est développée et qui prétend nous éclairer sur les rapports de l'art et de la science, autour de l'idée de la beauté de la science. Alors, il n'est pas difficile de trouver, chez les scientifiques eux-mêmes, de très nombreuses citations dans lesquelles il est effectivement question de la beauté de la science. Par exemple, Louis de Broglie, grand physicien français de la première moitié du XXe siècle, une doctrine qui parvient à réaliser une vaste synthèse produit sur le théoricien une impression de beauté et l'incline à croire qu'elle renferme une grande part de vérité. Grand mathématicien allemand, Hermann Weyl, à peu près à l'époque, dans mon travail, j'ai toujours tenté d'unir le vrai et le beau, et quand il m'a fallu choisir entre l'un et l'autre, j'ai le plus souvent choisi le beau, dit un mathématicien. Bizarre quand même, bizarre. Quand vous regardez de près ce qu'il fait, c'est pas vrai. Évidemment, il choisit le vrai, mais il trouve le vrai beau. Donc, il dit, c'est parce que c'est beau que ça va être vrai. Ce que vous reconnaissez là, évidemment, c'est un écho très ancien qui se réverbère depuis plus de 2 millénaires d'un platonisme fondamental. Le vrai, le beau, ne parlons pas du bien pour l'instant, le vrai et le beau sont censés être consubstantiels, et effectivement, les physiciens ont très envie de penser que quand ils trouvent quelque chose de vrai, c'est que c'est beau, ou quand ils trouvent quelque chose de beau, c'est que c'est vrai. Vous remarqueriez, si vous prolongiez cette enquête, j'ai à votre disposition des dizaines de citations de ce genre-là, que je vous épargne. Vous remarqueriez qu'elles émanent, pour leur immense majorité, de physiciens et de mathématiciens. Et que si vous vous tournez du côté des sciences de la vie, alors oui, les biologistes auront souvent envie de parler de la beauté de la nature, par exemple. Bon, d'accord, ce n'est pas du tout la même idée. C'est une idée à discuter, d'ailleurs, je laisse ça de côté. La nature est-elle belle ? Grand thème de discussion. Ce n'est pas la même idée que de dire la science est belle. Et effectivement, la biologie, je ne connais pratiquement pas de biologistes qui trouvent que la biologie en tant que telle, en tant que théorie, est belle. Ils peuvent la trouver profonde, impressionnante, et tout ce que vous voulez. Belle, elle n'a pas, pour des raisons que là encore je ne discuterai pas aujourd'hui, elle ne peut pas, vu la complexité extrême du monde vivant, obéir à des critères d'esthétique simples comme l'élégance, la simplicité, l'économie, qui peuvent caractériser certaines branches des mathématiques ou de la physique. Et effectivement, ça a été très bien dit par Thomas Huxley. Thomas Huxley, qui est un grand biologiste anglais de la fin du 19e siècle, ami proche et défenseur de Darwin d'ailleurs, mais qui avait une haute conscience des spécificités des sciences du vivant et de leur extrême complexité, et qui a dit ceci: la grande tragédie de la science, c'est l'assassinat de splendides théories par des misérables faits. Et effectivement, dans une science aussi complexe que la biologie ou les sciences de la vie en général, vous pouvez bâtir des grandes théories générales qui vont s'effondrer parce que vous allez trouver dans un coin une bestiole qui ne correspond pas du tout à ce que vous aviez prévu ou attendu. La beauté de la science, douteux, si on prend la science en général, problématique s'il s'agit des sciences mathématiques et physiques. Et qu'est-ce qui fait que les physiciens et les mathématiciens aiment invoquer cette idée? Souvent, quand vous les poussez dans leur retranchement, ils vont vous dire « Ah, mais quand même, les équations qui régissent les lois de la nature, c'est quand même beau, c'est une belle équation. » Et effectivement, vous allez trouver pas mal, là encore, de citations qui vont vous vanter la beauté des équations. Par exemple, Dirac, extrêmement grand physicien du XXe siècle, le chercheur, dans son effort pour exprimer les lois fondamentales de la nature en langage mathématique, devrait en priorité tenter d'obtenir la beauté mathématique. Il arrive souvent que les exigences requises pour la simplicité et la beauté soient les mêmes. Quand elles sont en désaccord, c'est la dernière qui doit être prioritaire, la beauté, même idée que j'aille. Il est plus important d'avoir de belles équations que de leur demander d'être en accord avec l'expérience. Il semble que si l'on travaille pour accéder à cette beauté, on soit sur une ligne de progrès assuré. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Alors évidemment, ça, ce sont toujours des jugements a posteriori. Quand vous avez trouvé une équation qui correspond effectivement, qui décrit correctement et profondément tel ou tel phénomène, vous allez dire qu'elle est belle. Et après coup, vous direz, mais c'est parce qu'elle est belle qu'elle est vraie. Mais c'est dans l'autre sens, évidemment, que ça s'est passé. Je vais passer rapidement sur les deux images que je viens de passer. Et on va faire un petit test sur la beauté des équations. Je vais vous en montrer trois. Puis on va faire un référendum. Alors, il y en a une que tout le monde a déjà vue. Il y a l'MC2. Une autre que personne n'a jamais vue, jusqu'à présent. Une troisième que certains ont peut-être déjà vue. Alors, qui trouve que... On va voter pour savoir quelle est la plus belle d'après vous. Qui est pour la première ? La seconde ? La troisième ? Bon, eh ben, ça donne à chaque coup le même résultat. Hein. Je suis sûr de mon effet, là. C'est effectivement la seconde qui recueille la majorité des suffrages, suivie par la première et suivie par la troisième. La première, elle est impressionnante parce qu'elle est d'une extrême simplicité et en même temps d'une généralité, d'une profondeur fantastique. Elle lie l'énergie, la masse, la vitesse de la lumière. La troisième, bah, c'est pas rien. C'est ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger qui régit le comportement des électrons dans un atome et qui explique l'essentiel des structures atomiques, des structures moléculaires, de la structure de la matière à notre échelle, pourquoi elle est dure, pourquoi mon doigt ne passe pas à travers, etc., etc. Donc c'est une équation dont le contenu à la fois explicatif et prédictif est incroyablement profond. Et celle-là, ben, elle n'existe tout simplement pas. C'est une pure invention typographique de mon fait. Elle n'a absolument aucun sens. Mais elle est plus jolie, bien sûr. Hein ? Effectivement, elle est très esthétique parce que j'ai joué sur des symétries, des choses de ce genre-là. Mais vous voyez, ça veut dire que la question de la beauté des équations ne peut avoir qu'un sens extrêmement limité à l'intérieur de la discipline. Moi, en tant que physicien, je peux dire, moi, la plus belle, c'est celle-là. Mais je peux le dire parce que je comprends plus ou moins ce qu'elle veut dire. De sorte qu'on est là dans un rapport à la beauté qui n'est pas du tout celui que veut, qu'essaye d'avoir la création artistique en général, qui est censée pouvoir être appréciée par tout un chacun. On est là dans une forme de beauté qui a beaucoup plus à voir avec une beauté de type artisanal, c'est-à-dire au sens où un beau rabot, un bel outil parfaitement adapté à sa fonction peut être jugé comme ayant une haute valeur esthétique par ceux qui savent s'en servir. Et par cela seulement. Il peut paraître, au contraire, très bizarre, biscornu, pas spécialement beau pour les autres. Donc, beauté, d'accord, qui ont valeur esthétique, oui, mais dans un sens très particulier qui n'est pas du tout celui de, du sens dans lequel la notion de beauté est convoquée dans l'art. Alors, parlons un peu d'art quand même maintenant. Le point de vue un peu, pour le moins, réservé, critique, que je tente de vous exposer, peut trouver un relais du côté de l'art. Et voilà une fonction de l'art qui, pour nous, scientifiques, peut être extrêmement utile. Je ne dis pas du tout que c'est sa vocation générale, que toute œuvre artistique doit y prétendre, très loin de là. Certains artistes, certaines œuvres d'art peuvent jouer un rôle critique par rapport à la science. L'art peut être un critique de science fécond et efficace. Critique de la science, ou plus précisément d'ailleurs de ses prétentions artistiques. Alors je vais vous montrer un certain nombre d'exemples, tous pris dans des créations contemporaines, récentes. Par exemple, si vous parlez des rapports entre art et technologie, alors il y a tout un champ qui s'est développé dans ces dernières années, qui est le champ du nano-art. Il fallait s'y attendre, bien sûr, avec le développement des nanotechnologies. Il est parfaitement normal, naturel, et tout à fait louable, estimable, que des artistes s'emparent des techniques à l'échelle nano pour créer un certain nombre d'œuvres. Alors, ces œuvres peuvent être des œuvres purement, comment dire, qui font appel purement à l'étonnement, à l'imaginaire, des choses de ce genre-là, qui sont à l'échelle du micron, sont des structures, l'image est très mal contrastée ici, vous ne la voyez pas bien, c'est dommage. Donc il y a une forme de nano-art qui essaye d'explorer ces nanostructures et de montrer qu'elles ont parfois, un contenu esthétique non négligeable. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse moi beaucoup plus, c'est l'utilisation du nano-art dans une dimension ironique et critique. Par exemple, ceci, deux artistes, italiens et américains, qui ont fait une petite œuvre qui s'appelle « The Key to Paradise », la clé du paradis, et qui fait allusion, bien sûr, à ce passage fameux de l'Évangile dans lequel il est dit que il sera plus difficile aux riches d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Bon, mais les nanotechnologies permettent de faire passer un chameau par le chat d'une aiguille. Ça, c'est une vraie aiguille à coudre, et vous voyez qu'il y a un chameau qui peut passer au travers. Je ne suis pas sûr que ça permette aux riches d'y entrer après, mais en tout cas, je trouve que là, il y a une utilisation ironique, humoristique, disons, du nano-art qui n'est pas sans intérêt, de même que cette petite œuvre d'un artiste allemand. Tout ça, c'est à des échelles, vous voyez, de l'ordre du micromètre. Hein. Ce n'est pas vraiment du nano, c'est du micro, qui a fait une espèce de pantoufle en plastique, qui est une pantoufle pour une paramécie. Il se trouve qu'en allemand, pantoufle, ça veut dire à la fois pantoufle et paramécie. Donc, il a fait une petite pantoufle pour permettre à un petit microbe, une paramécie, de s'y loger. Là encore, on est juste dans une dimension ironique. Plus intéressant peut-être, voici une œuvre d'un peintre Emmanuel Régent qui joue et surjoue joue sur les œuvres, sur les photographies cosmiques que je vous ai dit tout à l'heure, les splendides images de galaxies, en nous montrant ceci. Il y en a toute une série, il en a fait plusieurs dizaines, qu'il appelle nébuleuse, il y adjoint un prénom féminin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il se sert de cet imaginaire que nous avons acquis en regardant ces images, et il s'en sert en nous montrant que nous ne voyons pas ce qu'il y a à voir. Nous sommes obnubilés par la ressemblance de cet objet. Et là, encore une fois, la reproduction n'est pas géniale parce qu'il y a du bleu-violet autour. Les couleurs sont beaucoup plus riches qu'il ne semble. Il y a des contrastes entre le jaune de l'oranger, du vrai rouge, du pourpre, du violet. Donc, c'est beaucoup mieux que ça. Et en fait, cette œuvre n'est pas une peinture comme on pourrait s'y attendre. Et le travail de l'artiste ici, qui est un travail très original, c'est le suivant. Vous savez qu'il y a deux façons de faire de la sculpture. Faire de la sculpture, vous pouvez procéder en ajoutant de la matière ou en enlevant. Vous pouvez rajouter de la glaise, du plâtre, etc. Au contraire, vous prenez un bloc de pierre et vous creusez jusqu'à ce que le cheval que personne n'avait vu à l'intérieur émerge. Bon, la peinture, en règle générale, sauf à ma connaissance, jusque-là, procède toujours par apport. Et des couches de peinture les unes après les autres. Eh bien, Régent a inventé une nouvelle façon de faire de la peinture. Il commence par mettre une couche de jaune sur sa toile, puis une couche d'orange, puis une couche de rouge, puis une couche de violet, puis une couche de noir, et ensuite il ponce. C'est-à-dire que les couleurs apparaissent dans l'ordre inverse. La couleur la plus lointaine qui a été déposée d'abord est celle que vous allez trouver au centre. Et là, il y a un travail artistique qui est intéressant. C'est une technique que je trouve qui fait réfléchir sur ce que c'est que la peinture, mais que, de façon ironique, il masque par le sujet prétendu qu'il prend. Alors, ce qu'il y aurait à voir, si l'on pouvait, ce sont des petites taches de lumière éparses, ici ou ici, et avec... des sortes de trajectoires qui évoquent aussi bien des paysages célestes que des traînées cométaires, et que l'artiste, c'est un artiste catalan qui s'appelle Joan Fontcuberta, intitule avec des noms de type astronomique, en donnant d'ailleurs des coordonnées astronomiques très sérieuses, une ascension droite, une déclinaison, etc. Et effectivement, quand vous voyez ces images-là, vous ne pouvez manquer de penser que ce sont des images célestes reconstituées éventuellement par l'artiste. En fait, pas du tout, n'a rien à voir. Ces images sont des images qui sont des images du pare-brise de la voiture de l'artiste constellées par l'éclatement des papillons et des insectes qui se sont écrasés sur sa vitre le soir. Et là encore, ce qu'il met en lumière, c'est à quel point nous sommes piégés par nos pré-perceptions. Nous avons vu des images du ciel, des images d'étoiles, etc. Et nous allons interpréter, et on ne peut pas être plus loin de la vérité que là. Donc c'est une sorte de mise en garde contre toute image qui ne vous fournit pas de façon explicite les clés de sa lecture. Je passe là-dessus. Alors, il me semble que comprendre pourquoi la science n'est pas l'art, en amont de discussions théoriques sur l'esthétique en général, ou la culture en général, ça vaut la peine de commencer par être aussi concret que possible, et de mettre en évidence le fait que les artistes et les scientifiques ne jouent pas dans la même cour, qu'il y a des différences objectives, profondes, dans leur nature, dans le type d'activité qu'ils mènent, dans leur insertion professionnelle et dans leur statut social. Alors, je vais montrer un petit tableau à double entrée, un peu caricatural, je ne m'en cache pas, je force un peu le trait, je suis prêt après à toutes les... les aménagements, d'un côté les artistes, de l'autre côté les scientifiques. Premier point, les artistes ont une activité qui est pour l'essentiel une activité personnelle. Chaque artiste fait son art, signe ses toiles ou sa peinture. Oui, d'accord, il y a des ateliers, il y en a eu en particulier autrefois, à l'âge classique, ça peut encore arriver aujourd'hui, mais pour l'essentiel, c'est une activité personnelle. La science, rien de tel. La science est une activité communautaire par essence. Là encore, il y a quelques extrêmement rares exceptions. Un mathématicien qui, tout seul dans son coin, va pendant 10 ans s'acharner à démontrer le théorème de Fermat, ça existe, mais ça n'est absolument pas représentatif. La science est une activité communautaire et d'une échelle dont vous n'avez peut-être pas de véritable idée. Savez-vous que le boson de Higgs qui a fait la une des journaux il y a 2-3 ans, découverte intéressante, l'article qui signalait sa découverte était signé de 5000 noms. 5000. Pas 10, pas 100. 5000. Vous vous rendez bien compte que ça ne veut plus rien dire. La signature individuelle du scientifique, l'autorat de l'article, n'a plus aucun sens. Une voiture qui sort de chez Renault était signée par les 5000 bons hommes qui ont chacun vissé un boulon, donné un coup de pinceau, etc. Ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, alors ça n'est pas vrai dans tous les domaines de la science, c'est vrai dans la physique des énergies, c'est de plus en plus vrai en biologie, ou en génétique en particulier, il commence à y avoir maintenant des articles qui sont également signés de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de chercheurs. C'est tellement dépourvu de sens que petit à petit se fait jour l'idée que on n'a pas besoin de la signature individuelle des chercheurs, que ça soit co-autoré par les 10 ou 20 laboratoires qui ont travaillé. Mais c'est une œuvre institutionnelle et collective. Vous voyez qu'il y a une différence fondamentale ici. Deuxième point, la pratique de l'artiste est une pratique individuelle qui est valorisée par sa différence et sa singularité, par le fait qu'il s'agit d'une création. L'artiste ne va pas essayer de ne pas faire la même chose qu'un autre, sinon ça n'a pas de sens. Au contraire, la science est une pratique collective qui est valorisée d'abord et avant tout par sa conformité normative. Pour que vous puissiez publier un article dans une revue de recherche, il faut qu'il traite d'un sujet qui est à la mode, qui est traité par beaucoup d'autres gens, et qu'il respecte un certain nombre de règles méthodologiques qui sont partagées. Vous allez d'abord être jugé sur le fait que ce que vous faites ressemble à ce que font les autres. Après, on se posera peut-être la question dans certains cas de se demander si votre travail n'est pas quand même suffisamment singulier et remarquable pour être considéré comme particulier. Mais c'est exceptionnel. La plupart des scientifiques font la même chose que leurs collègues. Je ne dis pas qu'ils ne font rien, que leur travail est inutile, mais ils travaillent à accumuler du savoir et de la connaissance sur des modes et dans des formes qui sont des formes assumées, acceptées et même imposées d'une certaine façon. Le génie solitaire qui va surgir d'un coup et dire « Einstein s'est trompé, j'ai tout résolu de mon coin, etc. », ce n'est pas demain qu'on le verra. Je ne dis pas qu'il ne viendra pas, j'ai des doutes, mais en tout cas, ce n'est pas la norme. Le statut social, pour les artistes, c'est un statut libéral. Pour les scientifiques, c'est un statut salarial. Vous êtes payé avant d'avoir publié vos articles quand vous êtes chercheur au CNRS. Vous recevez un salaire chaque mois. Et puis, vous publiez, mais votre salaire a peu de choses à voir avec ce que vous allez publier. Oui, d'accord, votre avancement sera plus ou moins rapide, la reconnaissance, peut-être une prime de temps en temps. Pour un artiste, il n'en va pas de même. Lui, il produit, il crée avant d'en toucher un bénéfice éventuel, avant de vendre. Alors oui, d'accord, là aussi, il faudrait moduler. Il y a de la commande publique de nos jours, ça existe, mais ça ne concerne évidemment que quelques artistes très particuliers. Du point de vue de la reconnaissance, les scientifiques ont une reconnaissance qui est essentiellement interne. Vous êtes reconnus par vos pairs. L'évaluation est interne et se fait à partir de publications spécialisées. En revanche, si vous êtes artiste, vous avez besoin d'une reconnaissance externe qui vous est apportée non pas tant par vos collègues, confrères, que par la critique d'art et par la fréquentation des expositions publiques et par, évidemment, le marché de l'art. Vous voyez que là encore, ce n'est pas du tout pareil. Enfin, du point de vue purement économique, la science aujourd'hui, de plus en plus, travaille à une échelle qui est celle d'économie industrielle, donc sur des financements contractuels a priori. La puissance publique va dépenser quelques milliards, et bien milliards, d'euros ou de dollars pour construire un grand accélérateur à Genève, lancer un télescope en orbite, monter la grande machine de décryptage du génome humain, est financé a priori et à des échelles qui sont proprement industrielles. L'économie de l'art est beaucoup plus type artisanale, c'est une vente quasiment à la pièce et a posteriori, vous n'êtes jamais sûr que ça va marcher. Et les échelles sont en conformité, puisque dans la science aujourd'hui, l'échelle de n'importe quelle moyenne d'ailleurs expérience se chiffre en millions jusqu'à des milliards d'euros. Les grands accélérateurs, les grands télescopes dont je viens de parler, c'est vraiment des milliards d'euros. L'échelle commerciale de l'art peut aller depuis zéro, allez, disons quelques centaines d'euros, jusqu'à des millions, dans le meilleur des cas, en laissant de côté trois ou quatre grands artistes internationaux qui atteignent la dizaine de millions, voire la centaine après leur mort, mais c'est tout à fait exceptionnel. Donc vous voyez qu'il me semble extrêmement important de prendre en compte ce fait brutal matériel que les artistes et les scientifiques mènent des activités qui sont socialement extrêmement différentes l'une et de l'autre. Alors, c'est à dire qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Ça dépend de ce qu'on appelle faire ensemble. Je crois pour ma part assez peu à des formes de convergence qui sont expérimentées aujourd'hui, c'est très bien qu'elles soient expérimentées, des artistes qui vont en résidence dans des laboratoires, ou qui invitent des scientifiques dans leur atelier pour essayer d'élaborer des œuvres. Je ne dis pas que ça ne produit rien, ça peut produire des résultats intéressants, mais il me semble que dans l'ensemble, il n'y a, je dirais, aucune raison pour que ça marche vraiment. Parce que les motivations des uns et des autres sont tellement différentes qu'il faut des cas extrêmement spécifiques ou d'entente interindividuelle tout à fait aléatoire, ou un sujet spécifique pour que ça marche. Donc il y a des exemples, et tant mieux. Mais de façon générale, il me semble que ce que l'on peut et doit attendre, outre ces cas exceptionnels, c'est ce que j'appelle pour ma part des brèves rencontres. Alors je ne sais pas combien d'entre vous ont vu ce magnifique film anglais, un film qui s'appelle Brief Encounter, qui est un film de David Lean, 1945. C'est un très très beau film, très romantique, qui dépeint la rencontre entre un homme et une femme. Lui est un médecin, petit médecin de ville, elle, une femme au foyer. Et ils se rencontrent sur le quai d'une gare, ils prennent tous les deux le train le matin pour elle va faire ses courses, lui va à sa consultation. Puis une petite étincelle naît entre eux et plusieurs jours de suite, ils se rencontrent comme ça, fugitivement, pas furtivement, fugitivement sur le quai de la gare et naît un rapport d'une grande intensité entre eux, mais qui ne sera jamais concrétisé. Ils ont des raisons impérieuses de suivre chacun leur chemin et donc au bout de quelques jours, ils se seront quittés, non sans avoir vécu une vraie passion très forte, et en avoir été chacun transformé. Mais vous voyez qu'ils n'ont pas convergé, ils se sont croisés, ils se sont rencontrés brièvement, mais intensément. Et alors je crois à ça, je crois à des rencontres, pas entre l'art et la science, entre des artistes, entre un artiste et un scientifique. Et pour terminer, je vais vous illustrer quelques-unes de mes brèves rencontres, en étant totalement personnel et subjectif. Ce sont des artistes que j'ai rencontrés et qui m'ont appris des choses sur mon métier de scientifique. Ce n'était pas du tout leur objectif. Ils ne cherchaient pas du tout ça. Et ce que je vais vous montrer, en vous montrant leurs œuvres, n'est pas une interprétation de leur œuvre qu'ils récuseraient très certainement. C'est plutôt un élément de la vision que j'ai eue et ce que ça m'a apporté. Je vous dis tout de suite que la plupart des œuvres d'art que je connais et qui m'intéressent ou qui me plaisent n'ont rien à voir avec mon métier de scientifique. Rien. Il se trouve que quelques-uns, ceux dont je vais parler maintenant, c'est une minorité, représentent ces croisements dont je viens de parler. Alors, je commence par un exemple tout simple. David Boeno, qui se décrit lui-même comme un copiste néo-platonicien, a fait un travail gigantesque qui a consisté à écumer les grandes bibliothèques du monde, la Vatican, etc., et à y étudier les manuscrits des éléments d'Euclide. Manuscrits qui sont tous quasiment tous des manuscrits médiévaux. On n'a aucun manuscrit originel. C'est des copies de copies de copies. Les plus anciens sont des copies arabes. Ensuite, il y a des copies en Occident, etc. Et il s'est, j'allais dire amusé, non, ce n'est pas un amusement. Il s'est fait un devoir de prendre une figure donnée et de la photographier aussi précisément que possible dans les différents manuscrits. Vous avez là un pentagone, le fameux pentagone, tel qu'il se présente dans plusieurs éditions extrêmement différentes des éléments d'Euclide. Et qu'est-ce que vous voyez ? Ben, c'est que ce n'est jamais la même chose. C'est que, contrairement à la norme actuelle des ouvrages scientifiques, où les schémas, les graphiques sont totalement anonymisés, généralisés, identiques, d'une fois sur l'autre, là, vous avez la patte individuelle de l'auteur ou de l'auteur du texte ou de l'auteur des gravures qui se marque et qui met en évidence le passage de l'histoire, le moment où ça a été fait, la langue dans laquelle ça a été écrit et donc tout le caractère concret qu'il y a derrière ce que l'on pourrait penser comme étant une vérité totalement abstraite. Bon, les théorèmes des éléments d'Euclide, ils étaient valables il y a 2300 ans, ils sont toujours valables aujourd'hui. Le carré de l'hypoténuse, depuis 2500 ans, il est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Oui, mais une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit, parce que vous avez fait l'impasse sur tout ce qui a été la singularité des mathématiciens qui ont repris ce théorème, l'ont démontré d'une autre façon, l'ont mis à profit dans d'autres circonstances, en ont tiré d'autres résultats au cours des siècles. Et donc, ce que Boeno fait, en recopiant, alors là, vous avez un manuscrit arabe, et puis à côté, mais une petite vignette extrêmement précise, en décrivant très précisément ce qu'il a vu, c'est de rendre toute son épaisseur historique et sa singularité au travail de la science qui, surtout aujourd'hui, est souvent masqué derrière une sorte d'anonymat très général. Là, je vous montre une œuvre de François Morlaix, qui est un grand artiste français des années essentiellement 70 à maintenant. Il est mort il y a très très peu de temps. Il a fait tout un travail, c'est quelqu'un qui avait un sens de l'ironie assez profond. Il a fait toute une série d'œuvres qu'il a intitulé « Des géométries ». En jouant évidemment au jeu de mots entre géométrie et tree, l'arbre en anglais. Alors que fait Morlaix ? Il prend, sinon pas un arbre, mais une grande graminée. Ça fait à peu près un mètre, ça. Donc c'est une grande herbe qu'il va prélever comme ça dans la nature et qu'il colle sur la toile. Et à partir de cette graminée, il prolonge les structures naturelles, les folioles que vous voyez ici, ici, ici et ici, de façon à engendrer cette structure que vous voyez là sur la toile. Donc c'est un travail dans lequel il part d'un élément qui est un élément singulier du réel, une herbe qui ressemble mais qui n'est pas identique à aucune autre, et dont il montre à quel point elle peut être, par notre travail mental, génératrice d'une structure abstraite. Et là, quand je vois ça, je me dis, mais au fond, ça, ça, là, il y a quelque chose qui ressemble au travail du physicien. Moi aussi, je m'intéresse à tel objet de la nature, tel caillou si j'étais géologue, ce n'est pas le cas, tel atome puisque je suis physicien théoricien. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce caillou, ce n'est pas cet atome, c'est ce qu'il y a de générique. C'est en quoi cet atome, ce caillou, sont porteurs de qualités et de propriétés qui dépassent la singularité. Et donc, il y a une petite leçon pour moi, en tout cas, d'épistémologie là-dedans. Une deuxième, toujours due à François Morlaix, qui était un artiste d'un certain minimalisme. C'est une œuvre dont le titre dit tout, tiret dont la longueur et l'espacement augmentent à chaque rangée de 5 mm. Rien de plus élémentaire. Faites une rangée de petits traits distants de quelques millimètres. Dessous, faites une rangée où ils sont un peu plus hauts, un peu plus distants, et vous continuez comme ça. Aucune imagination autre que le procédé purement algorithmique que vous avez utilisé au départ. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? Ben, si vous avez donné juste le titre et la procédure, je doute que quiconque parmi nous aurait imaginé l'apparition de ces grandes structures courbes. Autrement dit, vous avez une règle élémentaire qui produit des résultats beaucoup plus inattendus et beaucoup plus riches que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et là encore, quand je vois ça, je me dis, ah, ça me fait aussi penser à un truc qui appartient à mon expérience de physicien. Ces fameuses équations que je vous ai montrées tout à l'heure, au départ, je les fais pour rendre compte de tel ou tel phénomène. Et puis, dans un certain nombre de cas, dans le meilleur des cas, elle se révèle porteuse de surprises extraordinaires et elle se met à expliquer beaucoup plus de choses que ce que j'imaginais au début. La fameuse équation de Schrödinger que je vous ai montrée tout à l'heure, elle était censée expliquer essentiellement la structure des atomes, mais elle explique aussi celle des molécules, elle explique aussi celle des noyaux atomiques, elle explique aussi la constitution, la conduction électrique dans les métaux, etc., etc. Et donc, vous avez sous une forme extrêmement condensé au départ, quelque chose d'une richesse insoupçonnée. Et c'est effectivement ce que nous espérons quand nous faisons de la physique. Nous espérons bien que nos petits jeux graphiques d'équations vont se révéler beaucoup plus riches que nous. Maxwell, un grand physicien du XXe siècle, disait s'étonner lui-même, disait « Parfois, j'ai l'impression que les équations sont plus intelligentes que nous. » Boutade, bien entendu, mais qui est révélatrice de la façon dont nous pensons. Un dernier travail de Morlaix, arc de cercle complémentaire. On est à Toulouse, la cité des briques, et Morlaix pose sur un mur dans lequel vous voyez une arcature de briques, il pose une petite plaque de contreplaqué qui prolonge la forme courbe que vous aviez là. Autrement dit, cette forme sort du plan, vous passez de deux dimensions à trois dimensions dans une continuité visuelle voulue et assumée. Et alors là, le physicien se dit, ah ouais, mais ça c'est très intéressant parce qu'au fond, ça m'arrive aussi de faire des trucs comme ça. Je comprends mieux la structure à deux dimensions, je la vois plus profondément, je la trouve plus riche si je la prolonge dans la tridimensionnalité qui est là. Et le physicien passe son temps à faire des choses de ce genre-là. Aujourd'hui, les physiciens qui essayent d'expliquer les phénomènes de la nature qui se passent dans notre espace habituel, celui qui a trois dimensions, eh bien, sont tout à fait couramment amenés à plonger cet espace réel à trois dimensions dans un espace fictif qui peut en avoir 10, 24, un nombre absolument considérable et qui va, tout abstrait qu'il soit, venir en retour rééclairer les propriétés concrètes de l'espace à trois dimensions qu'il a généralisé. Donc un phénomène d'extrapolation que la physique théorique pratique. Extrapolation, mais aussi phénomène d'interpolation. Giovanni Anselmo, artiste du groupe italien de l'Arte Povera des années 70-80, qui travaillait, comme le nom l'indique, Arte Povera, art pauvre, travaillait délibérément avec des matériaux communs. Ici, c'est simplement du plomb. Voici une œuvre très simple, mais que moi, j'aime beaucoup. Ce sont deux petits blocs de plomb. Vous voyez, ce n'est pas grand, 5, 6, 10 cm, 5, 12, 10 cm, séparés par un hiatus. Et sur l'un d'entre eux est estampé le mot « visible ». Visible. Et qu'est-ce qui est écrit là ? « In », bien sûr. Donc, vous avez une œuvre que je trouve absolument magistrale parce qu'elle rend visible l'invisible. Elle rend lisible l'illisible. L'absence, le vide, le hiatus, porte sa propre signification. Et ça, c'est un phénomène, là aussi, qui m'intéresse, parce que ça veut dire que cet espace-là n'est pas un espace vide. C'est un espace qui est plein, plein de sens. Le sens lui étant donné par ce qui l'entoure. Et là, ce phénomène d'interpolation qui va faire supporter à un morceau d'espace des propriétés qui lui sont conférées par son entourage, c'est quelque chose, là encore, qui appartient à la panoplie du physicien. Par exemple, muni précisément de mes fameuses équations, celles de Maxwell en l'occurrence, si je veux connaître l'intensité de la lumière en un point quelconque de cette salle, ici, là, au bout de mon doigt, eh bien, il suffirait que je connaisse l'éclairement sur les murs. Connaissant l'éclairement uniquement sur les murs, je peux déterminer sans ambiguïté l'intensité de la lumière en tout point de la salle. C'est exactement comme ce qui se passe ici. L'intérieur est délimité par ce que nous physiciens appelons ces conditions aux limites. Puisque je suis avec les Italiens, Giovanni Anselmo, je vous montre cette œuvre qui s'appelle Verso Oltremare. Et je ne commenterai pas le titre qui est dû au petit rectangle bleu outre-mer que vous avez sur le mur et qui joue dans l'imaginaire d'Anselmo un rôle important. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est là. Ce qui est là, c'est une dalle de pierre qui fait 3 mètres de haut, 3 mètres de haut, environ 1 mètre de large et une dizaine de centimètres d'épaisseur. Ce machin-là pèse au bas mot 400 kilos. Il n'est pas appuyé sur le mur. Il repose par terre, par son arête qui est là, mais il n'y a aucun clou, rien qui le retienne par terre, et il n'est tenu que par le mince câble qui est là et qui est chevillé dans le mur. Quand je passe à côté de ce machin-là, et je défie quiconque de ne pas éprouver le même sentiment, j'ai peur, j'ai vraiment très peur. Un truc de 400 kilos qui tient à l'oblique, au bout d'un mince câble, et dont vous dites, mais comment ça tient, ce machin-là, pourquoi ça ne va pas déraper au sol et s'effondrer? Bon, alors là, le physicien se dit, ouais, mais quand même, là, c'est une mécanique pas trop compliquée, je peux évaluer le poids du machin, le poids, il est vertical, la résistance au sol due au frottement, la traction du câble, j'ai un jeu de force pas trop compliqué, les équations de la mécanique, de la statique, me permettent de voir si ça peut tenir en équilibre. Bon, j'ai amusé à faire le calcul, qui n'est pas très compliqué. Et oui, je me convainc que ça tient et ça tient bien. Ça ne m'empêche pas d'avoir peur. Ça ne m'empêche pas d'avoir peur. Et au contraire, voir cette œuvre me renvoie à ceci, que la certitude scientifique que je peux acquérir sur la solidité de ce machin-là, ou la solidité d'un pont, ou la fiabilité d'un avion, ne me suffit pas. Ne me suffit pas. Je suis aussi, pas seulement un physicien ou un mathématicien, j'ai, comme tout le monde, des affects, des sentiments, des peurs, et il faut que je fasse avec. Et donc là, il y a quelque chose qui est, à mon avis, un rappel. Dire rappel à l'ordre, non, justement, un rappel au désordre, d'une certaine façon, qui est extrêmement fécond. Vous, scientifiques, n'imaginez pas que, même si vos calculs sont vrais, ce qui est souvent le cas, heureusement, que ça épuise les questions que posent les phénomènes naturels ou artificielle. Ce n'est pas parce que j'aurai démontré que c'est stable que je cesserai d'avoir peur. Et donc, ça plaide pour une mise à sa juste place de la science, pas du tout pour qu'on l'élimine, pas du tout pour qu'on la néglige, pas du tout pour qu'on la méprise, pas du tout pour qu'on l'abandonne, mais pour que l'on sache que c'est un élément, que c'est une pratique humaine parmi d'autres, et qu'il serait totalement illusoire et dangereux de vouloir lui soumettre toutes les autres. Et dans le même ordre d'idées, j'ai vraiment pratiquement fini, d'un autre grand artiste italien, Giuseppe Pennone, Ripetere il bosco, répéter le bois. Alors, ce que vous voyez là, c'est une poutre. Puis dessus, vous voyez un morceau de tronc d'arbre. Première fois que vous voyez ça, vous dites, ouais, bon, c'est intéressant. Il a posé, il a fixé un tronc d'arbre à l'envers d'ailleurs sur un socle. Pas du tout. Ce qu'a fait Pennone, c'est de prendre une poutre industrielle, 20 sur 20. Ouais, là, je dis ça, je dis marchand de matériaux de construction. Et sur les deux tiers de sa longueur, il a soigneusement, avec une gouge, petit à petit, enlevé les couches du bois que l'arbre avait fabriqué en plusieurs décennies, de façon à revenir au noyau central qui est le tronc du petit arbre quand il avait, mettons, 4-5 ans. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est votre poutre, là, c'est un matériau artificiel, un artefact, un produit industriel. Et n'oubliez pas qu'il a été vivant. Non seulement parce qu'on l'a équarri dans un gros tronc, mais mieux que ça, vous pouvez retrouver à l'intérieur de cette poutre l'objet désormais mort, mais qui fut vivant sous sa forme initiale. Et c'est une œuvre qui est très émouvante, enfin pour moi en tout cas, parce que c'est la même chose. Elle vous dit, n'oubliez pas, derrière les objets techniques, derrière les manipulations technologiques, n'oubliez pas les êtres individuels. Les poutres, elles se ressembleront toutes. Oui, mais quand vous allez chercher le petit arbre qui est à l'intérieur, ils ne sont pas pareils. N'oubliez pas que les individus naturels ne sont pas des artefacts tous identiques les uns aux autres. Je montre juste un autre travail de Pennone du même genre. Il a travaillé sur le grand cèdre de Versailles, vous savez, celui qui a été abattu lors des grandes tempêtes de 1999. C'est un arbre gigantesque. Vous voyez, ça doit faire 2 mètres de diamètre. Et là encore, il retrouve le tout petit cèdre initial au milieu. C'est une très grande œuvre. Elle fait 6 mètres de long. Et je termine avec presque travail de Piotr Kowalski, qui a déjà été cité tout à l'heure, qui était un ingénieur d'origine polonaise, qui a beaucoup travaillé aux États-Unis puis en France, et qui a fait un truc que moi je trouve formidable, un coup de tampon, qui est, moi je trouve, un petit coup de génie. Une œuvre qui est très facile à imiter, il n'y a pas de copyright, vous pouvez aller faire ça chez votre marchand du coin, vous faites faire un petit tampon comme ça. Ceci se déplace à 29,9 km par seconde par rapport au Soleil. Et puis, vous pouvez le mettre partout, parce que tout cet ordinateur, votre chemise, monsieur, et vous qui êtes dedans, la chaise, tout se déplace à 29,9 km par seconde. Et nous n'en avons évidemment aucune conscience. Alors, une chose est de l'apprendre dans un cours d'astronomie. Oui, d'accord, planète tourne autour du Soleil, la Terre tourne autour du Soleil à 30 km par seconde. D'accord, je l'ai appris, je le sais. Une autre chose est de redonner chair, si j'ose dire, à cet énoncé, en prenant conscience qu'il concerne tout objet à travers lequel nous vivons et que notre immobilité apparente est un mystère très profond. Oui, d'accord, que la physique peut expliquer, mais qui n'en reste pas moins quelque chose de très mystérieux. Et je finis. En vous montrant la couverture du premier numéro d'Alliage, notre revue, qui est d'ailleurs due à Piotr Kowalski, qui c'était le premier numéro. La revue s'appelle Alliage et il nous avait fait un très bel A, c'est en fait du sable déposé sur du papier. Et évidemment, ce qui joue là-dedans, sont les effets de texture. On voit la texture du papier, on voit la texture du sable, et la leçon, si j'ose dire, en tout cas la conclusion que moi j'en tire, c'est effectivement que derrière l'abstraction qui peut être celle d'une lettre imprimée sur un papier qui a l'air uni, il y a derrière de la matière, du concret, j'allais dire de la chair, ce n'est pas tout à fait le cas ici, mais à laquelle les artistes nous aident à ne pas oublier. Je vous remercie.